Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio.
Philippe Laurence est bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, revenons ensemble sur la visite du pape François. Dans son pèlerinage pénitentiel, il s'est excusé à plusieurs reprises, notamment bon en Alberta, au Québec, dans le Grand Nord également. Qu'est-ce que tu as pensé de ses excuses? Quelle est la suite des choses également?
Ben, en somme, je crois que l'arrivée du pape a été un petit peu quand même un échec, parce qu'il y avait assez peu de fidèles pour un événement aussi important. Ce que ça nous démontre, une première chose, c'est que nos sociétés ne sont plus chrétiennes. On n'est plus dans la chrétienté, si on veut. C'est-à-dire que oui, le catholicisme demeure, toutes sortes de religions chrétiennes demeurent, mais on n'a plus du tout, l'Église n'a plus du tout le même pouvoir civilisationnel qu'autrefois. Cela dit, il a quand même un grand pouvoir symbolique. Puis on l'a vu, justement, comme tu disais, ben ça, c'est la visite pénitentielle pour rapporter les excuses, qui, je crois, était justifiée. Parce qu'on sait que les pensionnats, l'Église catholique avait quand même une responsabilité. Cela dit, je pense que dans la couverture des excuses à l'égard des Amérindiens sur les pensionnats, tout ça, il y a beaucoup, je crois, de raccourcis intellectuels, il y a beaucoup de désinformations, de nuances qui ne sont pas faites. Par exemple, on sait que dans l'histoire des pensionnats, d'abord, il s'agit d'une idée du régime fédéral, régime canadien, qui va s'allier avec différentes églises. Pas juste l'Église catholique, mais aussi des églises protestantes de toutes sortes. Mmh. Puis les pensionnats, ça se passait surtout au Canada anglais. Puis même au Québec, il y avait plusieurs pensionnats qui étaient anglophones. Donc oui, évidemment, les catholiques ont une responsabilité là-dedans, mais faut pas oublier que c'est comme si on nous présente l'affaire, comme si c'était l'Église catholique le grand responsable des pensionnats autochtones. Alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça, là, quand même.
Ouais, mais c'était les prêtres, là. C'était les prêtres.
Oui, oui, absolument.
Dans certains cas, puis je veux dire... qui violentait, il y avait des violences physiques, des violences sexuelles. Je comprends que c'est un système fédéral, mais c'était pas les politiciens qui étaient à l'intérieur de ces pensionnats-là.
Ah, non,
les
civils,
ce sont ces individus-là qui les ont posés.
Mais d'où la légitimité des excuses. Ouais. Mais après, il y a quand même des nuances à faire. Mm-hmm. Parce que on sait que le pape a dit, oui, c'était un génocide. Mais l'expression est quand même forte.
Pourquoi?
Par exemple, on a parlé dans la commission Vérité et Réconciliation, on a parlé du génocide culturel. Pour dire, bon, il y a une tentative d'assimilation, puis c'était quand même c'est ça le but, tuer l'Indien dans l'Indien. Mm. Donc c'est vraiment une tentative d'assimilation, puis on peut comprendre qu'on parle de termes comme ça. Mais un génocide, là on parle quand même, c'est Joseph Facal, je l'entendais à Cube hier, je crois, qui disait ben un génocide c'est tu cherches à planifier l'extermination d'un peuple physiquement. Donc c'est l'Holocauste, c'est le génocide au Rwanda, c'est des choses comme ça. Je comprends que dans le cas des Amérindiens, on va quand même vécu toutes sortes, comme tu disais, d'agressions sexuelles, tentatives d'assimilation, etc. Mais un génocide, c'est quand même quelque chose d'encore plus fort. Là, il s'agit d'exterminer un peuple physiquement. Donc je crois qu'il y a eu vraiment un manque de nuance dans la visite du pape. Puis tu sais, ça aurait été possible de juste faire des excuses de manière, de manière plus modérée, de faire... Puis je pense que ça n'a pas été fait, on a été beaucoup dans l'exagération, je crois. Ce que j'aime pas, que je remarque, c'est que je crois qu'il y a une surenchère victimaire du côté des lobbyistes amérindiens, si on veut. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idée qu'il faut toujours plus d'excuses, faut toujours plus de gestes de réconciliation, faut toujours aller plus loin, mais à un moment donné, on a envie de dire quand est-ce qu'on tourne la page pour se tourner vers l'avenir. Parce que là, on est toujours dans l'idée qu'il faut reconnaître le racisme systémique, faut reconnaître ceci, faut des excuses pour ça. Mais à un moment donné, il faut savoir faire un trait sur le passé puis se tourner vers l'avenir. Sinon, on peut pas avoir des projets structurants, on peut pas se tourner vers l'avenir, on peut pas avoir un véritable avenir.
Ouais. En même temps, est-ce que c'est pas un peu facile, peut-être, de l'autre côté de la clôture, de dire ça sans l'avoir vécu? J'ai l'impression, pour avoir fait plusieurs entrevues avec des leaders des peuples autochtones, qu'ils avaient besoin d'entendre ces excuses-là. Qu'ils avaient besoin d'entendre, par exemple, le pape nommer des mots. Violence sexuelle.
Ben oui. T'sais,
et qu'après ça... Il y a des blessures pour certains qui seront peut-être plus faciles à guérir. Mais en même temps, moi, je suis qui, moi, pour juger de ça si je ne l'ai pas vécu? Tu comprends?
En effet, mais je crois qu'on peut quand même apporter des jugements parce que il y a des exagérations qui sont objectives. Il y a quand même des vérités historiques qui sont faites par des recherches d'historiens, puis il y a des vérités qui sont vraiment établies, puis là, on peut pas dire n'importe quoi, même si on a vécu le pensionnat ou même si on est de descendance amérindienne. tu sais, je pense justement à beaucoup de désinformations sur les origines du Québec, du Canada. Puis là, on dit, l'arrivée des Français, c'est le début d'un génocide, c'est le début de l'esclavagisme. Puis là, on est beaucoup dans l'exagération. Mmh. Alors qu'on peut faire des nuances en disant, par exemple, l'approche anglaise, c'est une approche plus d'extermination, d'écrasement. Alors que quand on regarde les sources des premiers colons français, on est plutôt dans l'idée qu'on veut former un nouveau peuple métissé, on veut avoir des alliances de nation à nation.
Ouais. Puis moi, personnellement, je suis plus nuancé dans le sens que, tu sais, est-ce que les excuses, c'était la première étape vers autre chose? Tu sais, je veux dire, on a parlé de l'accès aux archives du Vatican. Tu sais, moi, quand il y a des gens qui ont vécu le pensionnat, qui ont perdu des frères, des sœurs, des amis, sans trop d'explications, est-ce que je peux comprendre qu'ils souhaitent avoir des réponses à leurs questions? De savoir ce qui s'est passé.
Ah, je pense pas que c'est.
Ça, je pense que c'est pas du
tout. Je pense que c'est pas du tout exagéré comme demande non plus. Moi, mon intervention ce matin ne veut pas dire que toute demande est illégitime. C'est pas ça l'idée. Je comprends. Les excuses sont bienvenues. Puis c'est la même chose pour des demandes comme justement l'ouverture d'archives. Mais après, c'est parce qu'il y a clairement des raccourcis intellectuels. Puis il y a beaucoup de désinformation. Puis je crois qu'il faut quand même faire la différence. Moi, ce que j'aime pas souvent dans la couverture médiatique, on va dire la voix des Autochtones. Mais il faut comprendre qu'il y a des voix, parce qu'il y a des nations, il y a des gens.
Oui.
Puis parmi les lobbyistes amérindiens, il y en a beaucoup qui sont pas du tout appréciés par beaucoup d'Amérindiens, là, qui sont très contestés. Puis regardez, j'ai un ami qui me faisait remarquer hier, puis c'est pas la première fois qu'on me fait dire ça. On dirait que de nos jours, le fédéral entretient des liens avec les Amérindiens un peu de la même sorte qu'il le faisait avec les Canadiens français au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il donne des postes pour faire taire, si on veut. On le voit, par exemple, avec la gouverneure générale, avec une sénatrice, avec, par exemple, le chef de l'Assemblée des Premières Nations. Donc, on donne des postes comme ça, qui sont sous la gouverne du fédéral. Puis là, ça donne juste des pouvoirs symboliques comme ça, mais concrètement, ça n'apporte rien comme tel à la condition amérindienne, aux véritables problèmes qui sont sur place. Donc, c'est comme si on fait juste des gestes qui sont purement un paravent, purement symboliques, mais il y a pas d'actions concrètes qui sont faites comme telles. Puis pourtant, il pourrait en avoir comme tel. Il pourrait avoir des projets structurants. Il pourrait avoir, les Amérindiens pourraient avoir plus de pouvoir politique pour avoir un agir sur soi comme tel.
Ben, moi, il y a des grands questionnements. Moi, lorsque je vois, par exemple, des communautés autochtones qui n'ont pas accès à l'eau, pas accès à l'électricité, je me dis ça, comment ça se fait qu'en 2022, on est encore dans une situation comme ça? C'est inacceptable.
Tout à fait.
Alors, est-ce que dans le processus de réconciliation, est-ce que, dans le processus d'aller de l'avant, je pense qu'il faudra intervenir pour aussi offrir de ces services-là qui sont la base. Est-ce que tu accepterais de vivre dans une communauté qui n'a pas accès à l'eau et à l'électricité en 2022? Alors, c'est inacceptable.
Absolument.
Et je pense qu'il faut dénoncer ça bien sûr, être solidaire dans ce cas-ci, trouver des solutions. Tu veux nous parler aussi d'une entrevue de la presse avec deux rappeurs?
Haineux.
Ça te fait réagir? Des rappeurs haineux? Pourquoi? Explique-moi.
Oui, c'est justement, je disais ça hier, c'est dans le cadre de Fierté Montréal. Bon, il y a toutes sortes de festivités, toutes sortes d'artistes. Puis bon, je veux pas dire du mal de Fierté Montréal en soi, là. Mais je crois que dans cet article, c'était assez intéressant, puisque là, on parlait de deux rappeurs du groupe Dope.gng qui ont des propos d'appel à la violence. Je peux citer, tout simplement, dans la presse, on le cite même, on s'est dit, il y a une chanson qui s'intitule « Brûler des condos ».
Ah, OK.
Et dans les paroles, on dit « Tout ce que je veux, c'est brûler des condos, choquer des boomers, je veux brûler le Québec de Legault ». Et plus loin, ça va même un peu plus loin, si je peux me permettre un petit peu de vulgarité, c'est juste pour citer, ça dit « Fuck la police, crise de raciste ». Bon, donc, là, la presse relaie ça comme si de rien n'était. Ils ne prennent aucune distance, il n'y a aucune réserve à l'égard de ces gens-là qui font pourtant des appels à la violence, qui sont dans la haine. Mm. Puis on nous présente ça en nous disant simplement, je cite le journaliste qui dit « Le morceau incarne le ras-le-bol de Saint-Eugène de Chelaga. » Donc j'ai envie de dire, est-ce que ça, le ras-le-bol des jeunes de Chelaga, ça explique des appels à la violence, des appels à la haine? Mais je pense pas. Là, je pense qu'il y a vraiment un problème d'éthique journalistique dans ce cas-là, là, quand même. Là. Je trouve pas ça normal qu'il y ait une telle complaisance médiatique à l'égard de violences comme ça, qui sont d'extrême gauche, si on veut. C'est-à-dire, on veut abattre le capitalisme, on veut abattre le Québec, la nation.
Et si ça avait été fait avec l'extrême droite, est-ce que tu penses qu'il y aurait une levée de bouclier beaucoup plus forte?
Oui, et avec raison. C'est-à-dire que je veux pas du tout légitimer l'extrême droite.
Non, pas du tout. Non, c'est ça, mais c'est un peu le deux poids, deux mesures.
Ben, c'est ça,
nous expose, hein.
C'est ça, je pense. Puis le problème, c'est que, regardez, si on, si on est juste un tout petit peu à droite de nos jours, là, à cause de la rectitude politique, ben là, tout de suite, on vous diabolise, on vous fascise, on vous extrême-droitise, puis on vous dit que vous êtes... si mettons, on s'imagine que, par exemple, François Legault, je me rappelle, en 2018, avait dit « J'aimerais ça en accueillir un peu moins des immigrants. » Puis là, tout de suite, là, mon Dieu, la xénophobie, le repli sur soi, le nationalisme défensif...
En prendre soin, en prendre soin.
C'est ça, hein, qu'il avait dit. Mais tu sais, c'est la question du nombre, ça se pose, là, comme disait Jacques Parizeau. Là. On peut se parler du nombre d'immigrants, de toutes sortes de sujets qui sont un peu plus à droite. Mais surtout qu'on se rapproche un petit peu de position à droite, tout de suite, on est fascisé. Mais si on est allé dans les violences d'extrême-gauche, ben là, ah, la presse puis des médias comme ça vont dire, ben c'est correct, puis on comprend, c'est le ras-le-bol de chez Laga. Ben oui, mais c'est non, c'est pas acceptable. La violence, que ce soit, peu importe, que ce soit extrême-gauche ou extrême-droite, c'est pas acceptable. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment ordinaire de la part de la presse, là.
Non, c'est sûr. C'est effectivement, c'est particulier. Merci, Philippe.
Bien, merci
on
beaucoup.
On se reparle mardi.
OK, merci. Salut. Bonne journée.